Allez, 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 allez.
Hunger. C'est du brutal.
Là. La cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. Vous le jouerez sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais.
Bonjour à toutes et à tous, j'allais dire bonsoir, mais en fait bonsoir, oui, il est 19h, vous êtes bien sur Studio Zef et vous écoutez de bouche à oreille. Nous sommes heureux de vous retrouver. Je recommence. Merci Jérémy à la technique qui me donne des grands signes. Nous sommes heureux donc de vous retrouver à quelques jours de Noël et de la fin de l'année. Les températures commencent à se radoucir en ce lundi 19 décembre. Il était grand temps que l'on s'approche de l'été,
ben
n'est-ce
oui,
pas Alice?
Mais complètement, parce que moi cet hiver de 15 jours, ben, ça m'a paru interminable, tu penses bien. Alors nous sommes aujourd'hui au presque complet, puisque Laetitia tient boutique, Noël oblige, il faut vendre du vin et des bulles pour les fêtes, mais notre coéquipière et dernière recrue Isabelle est avec nous pour notre plus grand plaisir. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous.
Alors tu vas nous parler de quel mot aujourd'hui?
Eh bien, comme on a choisi le sujet du pain, j'ai plutôt choisi des mots concernant le pain et une petite histoire rigolote.
Donc des mots qui feront écho à notre sujet du jour, le pain donc, et dont nous parlerons avec notre invité, puisque nous accueillons aujourd'hui Denis Barthaud, professeur de boulangerie au lycée hôtelier de Blois. Bonsoir Denis.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Pour entamer cette heure avec vous, chères auditrices et auditeurs, je vais faire appel à notre traditionnel tour de table. Je vais réussir à prononcer des mots aujourd'hui, un par un. Avez-vous des coups de cœur et des bons plans pour cette fin d'année, les amis IES? Je vais commencer par toi, qui me regarde avec des grands yeux, plein de poésie. Isabelle, on t'écoute.
Alors, toujours de l'amour à partir du moment où ça part à manger. J'ai le bec plein, j'ai tout ce qu'il faut pour manger avec le bon pain. Un film à voir et à revoir sur arte.fr, ça s'appelle Escoffier ou la naissance de la gastronomie. Ça relate la vie d'Auguste Escoffier et de son copain César Ritz, qui ont remodelé entièrement la cuisine et les façons de penser, l'accueil en restaurant, etc. etc. Il y a un peu plus d'une centaine d'années. C'est un film extraordinairement bien documenté, sans anachronisme, enfin, vraiment bien ficelé.
Escoffier, le père des bases de la cuisine française.
Exactement.
Les fonds de sauce, les...
Voilà, celui qu'on relit quand on s'acharne à un concours. Voilà.
Encore maintenant?
Oui.
Oui, oui. Toujours?
Bah, ça reste celui qui a posé toutes les bases.
Ouais. Okay. Ça reste une référence même dans la cuisine moderne, un petit peu plus...
Alors même si on a allégé les sauces
légères, dire,
telles ouais. qu'on les a eues connues après-guerre et que Robuchon et consorts ont bien allégé avec Michel Guérard, avec voilà, toute cette jeunesse des années 80, il en reste pas moins que quand on se retourne, c'est chez Escoffier qu'on va.
Et tout ça, c'est à revoir sur le replay de Arte TV.
Ouais, Arte TV.
Alice.
Bah écoute, moi, c'est un petit bistrot, bar à vin, salon de thé. Alors, bon, salon de thé, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé comme ça, mais bistrot, brasserie, qui s'appelle Savouré et qui a ouvert avant l'été. Donc, il y a quelques mois, je ne suis même pas sûre que ça fasse un an. Et c'est un ancien élève du lycée hôtelier, Pierre Breton, qui a ouvert cet établissement. Il est tout jeune et c'est plutôt sympathique. Alors l'endroit est déjà accueillant, c'est agréable. Pierre Breton est très sympa. Et puis on y mange. Alors il y a peu de plats à la carte. Hein. On a choix entre 4 plats.
C'est déjà rassurant.
Ouais, complètement. Dont toujours une proposition végétarienne. La dernière fois que j'y suis allée, il y avait même 2 propositions végétariennes avec une soupe de potimarron. Et bon, alors en l'occurrence, je n'ai pas pris ça. J'ai pris la salade, mais franchement, c'était très très bien. Salade avec une sauce, et franchement, je ne suis pas du tout portée sur les assaisonnements, et là qui passait très bien. Donc pas trop huileuse.
Le gras, c'est la vie, Alice.
Oui, tout à fait. Véronique n'est plus là pour nous le rappeler. Enfin, elle n'est plus là. Elle est toujours là, mais plus en studio.
Oui, là.
Oui. Et puis des vins. Des vins au vert qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Franchement, c'est une bonne adresse pour manger le midi, c'est pas cher. Une salade, un dessert, un verre de vin, c'est 25 euros et on sort, on n'a vraiment pas faim.
Et un soir de concert, quelques petits tapas, juste ça, rien d'autre à la carte, un assortiment à faire entre copains consentants, crème de chèvre à tartiner, saucisson en tranches, enfin voilà, un samedi soir tranquille.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi toutes les mises en bouche comme ça qui sont très diverses. Et en effet, c'est bien de le préciser, ils organisent des concerts, enfin voilà, ils font des choses pour que ça bouge. Donc voilà, une adresse très sympa.
Et l'adresse justement ?
Alors l'adresse précise, je suis affreusement désolée de ne pas l'avoir en tête, mais c'est au coin de la rue d'Angleterre et de la rue du Bourgneuf, à la place de l'ancien bistrot Hippolyte, qui était un peu une institution blésoise.
On mettra ça sur la page de l'émission ?
Voilà, en face de la boutique de décoration et de fleurs Florian.
Alors, puisqu'on parlait de plats végétariens, moi j'ai une recommandation. C'est un film qu'on peut voir sur que je recommande à tous pour les fêtes de Noël. Alors c'est un petit peu gore, faut peut-être pas mettre tous les enfants devant, mais le sujet est très sympathique. On parlait de viande de bœuf la semaine dernière, et donc c'est un film de Fabrice Eboué qui est sorti l'année dernière. Vous pouvez le retrouver sur quelques plateformes voilà en ligne. Et donc c'est l'histoire d'un couple de bouchers joué par Marina Foïs et Fabrice Eboué. Leur affaire marche pas très très bien, et puis un jour leur devanture de boucherie se fait la boucherie complètement d'ailleurs se fait vandaliser par un groupe d'antispécistes vegan, et il reconnaît l'un d'eux quelques jours plus tard, et malheureusement il le tue par accident. Il veut faire disparaître le corps et il s'en occupe avec tous les talents de boucher qu'il a dans son laboratoire. Et sa femme, le lendemain, par accident, encore une fois, fait goûter un jambon qui appartenait donc forcément à ce végétarien, à une de ses clientes. Et c'est absolument fantastique comme viande, parce que forcément, il bouffe que des légumes et de l'herbe. Et voilà. Et donc après, c'est une chasse aux véganes. On te regarde pas avec des yeux gourmands. T'en fais pas, Alice. On va pas te découper en morceaux pour voir quel goût tu as à la sortie du studio. Mais c'est un film un peu voilà. C'est drôle. C'est très très drôle. Faut pas prendre ça au premier degré, bien heureusement, mais voilà, je le recommande à tous quand même. Ça s'appelle Barbac.
Mais c'est bien d'avoir aussi des films comme ça. Je veux dire, c'est complètement à l'encontre
de la morale.
Non, mais voilà, mais c'est complètement provocateur. Et franchement, vous savez quel est mon régime, et je trouve ça très très bien.
Ah mais ouais, franchement, t'es super bon public. C'est ça qui est bien avec toi, c'est que tu nous fais rire, Alice. On va écouter une petite musique. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Jérémy, est-ce qu'il va parler aujourd'hui?
Eh bien, voilà.
Non, pas du tout.
Non. Est-ce que c'est là qu'on écoute Claude François, ou est-ce que ce n'est pas là qu'on écoute?
Non, non, c'est plus tard, parce que moi je suis un grand fan, et donc on a gardé ça pour la fin de l'émission. Non, c'est House of Pain, Jump Around.
Jump up and get down. play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, and I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head, and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down.
C'est pas cette qui grille tous les pains. Il grille tous les pains. Il grille même la baguette, même la baguette, même la baguette. Seb grille tous les pains comme vous les aimez bien.
Grille tout pain Seb. Il grille tous les pains, même la baguette.
Seb.
Alors je vais reprendre la parole après les virgules, c'est toujours extrêmement compliqué. Je ne la sais pas, c'est bien. Alors avant de lancer notre sujet, eh bien, je vous propose d'écouter un petit micro-trottoir. J'ai interrogé quelques personnes étrangères pour avoir leur avis sur le pain français.
Quand je suis venu, je me posais plusieurs fois des questions. Pourquoi à l'intérieur c'est blanc, c'est vide, il n'y a rien de tout. Mais maintenant, on a compris, c'est pour éviter d'avoir grossir. Mais moi, j'aime bien.
J'ai découvert le bon pain ici en France. J'ai trouvé que le pain en France, c'est vraiment délicieux.
Moi, j'aime tout ce qui est fait en boulangerie et pâtisserie en France.
J'adore le pain français et boulanger. Toute la boulangerie, c'est très délicieux.
Qu'est-ce que vous préférez à la boulangerie?
Baguette traditionnelle.
Moi aussi, une baguette.
Grand pain.
J'adore la baguette traditionnelle.
Mais moi, je préfère d'avoir des baguettes bien cuites et rouges.
Je n'aime pas ces bien cuits. Je préfère le bien blanche. C'est parce que l'autre est très dur et très noir.
Ni trop cuite, ni trop rouge comme ça, noir par exemple. J'aime beaucoup la baguette moyen et moelleux.
Bien cuite. Elle me rappelle notre pain qu'on fait à la maison chez nous, en Kabylie.
Est-ce que vous aimez le pain quand la mie est foncée, quand c'est du pain de son par exemple ou du pain complet?
J'adore le pain complet.
C'est bien pour la santé.
Moi aussi j'aime bien.
Le pain, le blé blanc. Je préfère.
Est-ce que vous préférez le pain français ou le pain dans votre pays?
Je préfère le pain de mon pays parce que je le trouve, c'était vraiment bon. Mais j'aime bien le baguette aussi, les pains de français. Mais en fait, c'est que je ne peux pas oublier le pain du Sri Lanka.
En fait, moi, j'aime bien les pains et les baguettes en France. Mais par contre, l'Afghanistan est connu par d'avoir les pains. Et moi, je préfère des pains de mon pays. Ils sont plus délicieux. Ils sont différentes manières de cuire des pains. Du coup, si je choisis, je choisis des pains de mon pays.
Même si je suis là en France, chaque jour, je prépare pain fait maison et pain traditionnel marocain.
Et le pain aux fruits?
J'adore le pain aux fruits raisin. Ah, le pain aux raisins. C'est raisin sec, j'adore.
Moi aussi, on fait le pain au raisin. Si on fait ça, le moment des fêtes, on fait toujours le pain avec des raisins.
Je l'aime beaucoup, c'est noisettes et raisins aussi, et figues. Figues aussi. C'est, je dis que c'est le hanteur qui est en France. Il y a beaucoup de choix, un plein de choix. C'est pour du pain. Et les deux, c'est très, très, très délicieux et très beau.
Magnifique. Oui, oui. c'est, on va découvrir plein de choses. Ils mettent beaucoup de fruits dans les pains.
Je voulais leur demander, parce que moi, le pain avec plein de choses dedans, j'adore. Et je voulais savoir si pour eux, c'était une hérésie d'aller mettre, parce qu'on est sur pas mal de cultures méditerranéennes jusqu'à l'Afghanistan, des pains qui sont pas du tout les mêmes que les nôtres, qui sont souvent plus plats. Et donc voilà, je voulais savoir si mettre tout un paquet de choses dans les pains, c'était pour eux immangeable, et la preuve que non. Et alors j'ai appris, je le savais pas, qu'apparemment l'Afghanistan est un pays très connu pour le pain, ce que j'ignorais totalement. Après voilà, il y a l'amour du pays qui est là aussi, qui peut-être oui. rappelle. Mais ce que j'ai trouvé très amusant, c'est le côté, c'est pour pas faire grossir qu'on met rien dans le pain. La réflexion de Milad. Et puis que le pain à la mie foncé, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est. J'ai trouvé ça assez intéressant. Denis, je ne sais pas quel est votre retour sur...
Oui, c'est vrai que le pain avec une mie un peu plus foncée est certainement meilleur pour la santé. Je dirais surtout qu'un pain avec un peu plus de son. Hein, mais pour qu'il soit assimilable, il faut le faire au levain. Sinon, en fait, il ne sert à rien. Donc un pain au son, sans levain, ne sert à rien pour le corps humain. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi.
Oui, parce qu'on peut penser qu'on va se prendre un pain de son pour je sais pas pourquoi
pour
d'ailleurs, pour
maigrir,
oui, pour garder la ligne.
Pour les fibres et tout ça, mais on n'est pas capable, le corps humain n'est pas capable d'assimiler les fibres, en fait, sans le levain. Alors après, je vais pas dire, parce que j'ai oublié aussi les termes techniques, mais voilà, il faut absolument le levain.
Alors on va justement revenir après sur toutes ces questions-là. Yann.
Oui, alors justement, avant de commencer cette conversation, j'ai pas une petite question à vous poser. Savez-vous à quand remontent les premières traces de pain, de céréales découvertes sur Terre ?
Mais évidemment que non.
Évidemment
Yann.
Que non.
Alors, j'arrive ici inculte et je repars cultivée.
Eh bien, on parle de bien avant l'agriculture. L'agriculture, ça date d'à peu près 8000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Là, c'est 14000 ans à peu près en Mésopotamie. Alors, on a trouvé évidemment de la bouillie de céréales ou de l'amidon qui viendrait de céréales mélangées avec de l'eau qui date d'il y a 30000 ans. On ne peut pas parler de pain à proprement parler. Quand on parle de pain, on parle de fermentation. Et là, je vais me tourner vers toi, Denis. Denis, je vais te représenter. Tu es professeur de boulangerie au lycée hôtelier de Blois. Et donc, je disais, quand on parle de pain, on parle de fermentation. Et hors antenne, on disait tout à l'heure que les Égyptiens seraient donc les premiers à en avoir compris le principe. La fabrication de leur pain se faisant en mélangeant du grain écrasé ou moulu, en le mélangeant à l'eau du Nil qui est riche en limon et qui renferme des agents de fermentation. Alors tu me parlais d'un esclave qui aurait découvert ça.
C'est ce qui a été, c'est ce qu'on suppose.
C'est toujours
en fait.
Un hasard. Hein,
oui, souvent c'est voilà, souvent les découvertes sont des hasards. Mais donc on suppose qu'un esclave en fait a oublié un morceau de pâte et pour pas se faire engueuler a mélangé cette pâte avec la nouvelle production. Et son maître, on va dire, entre guillemets, a trouvé ce pain excellent.
Parce qu'il avait gonflé.
Oui, il avait gonflé, et puis il avait un meilleur goût, il était plus digeste aussi.
Alors on parle d'une légende, mais bon, c'est toujours joli d'avoir une légende comme ça.
Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de preuves sur beaucoup de choses. Hein. De toute façon, même sur nos produits français, tels que le croissant, tels que la baguette, on n'a pas vraiment l'histoire.
L'origine est assez floue.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ouais. Alors donc, on est sur la fermentation, parce que pain, c'est fermentation, forcément.
C'est la même fermentation que pour faire une bière, que pour faire du vin.
C'est exactement pareil.
C'est une fermentation alcoolique.
Alors, après les Égyptiens, pour revenir sur la petite histoire du pain à proprement parler, les Grecs et ensuite les Romains, eux, utilisèrent, mais bien plus tard, les levures indigènes des mares de raisin pour démarrer la fermentation. C'est ce qu'on utilise aussi maintenant pour faire un levain. Quand on parle de pain au levain, on le démarre comment ? Par ce processus naturel-là ?
Il y a plusieurs processus. En fait, dès qu'on utilise un fruit, on a des levures sur la peau. Donc, on peut démarrer un levain avec n'importe quel fruit. Donc, souvent, moi, je le démarre avec du raisin sec parce que j'en démarre chaque année. Mais il faut savoir que beaucoup de boulangers ont des levains qui sont très anciens. Pour certains, qui ont plus de 100 ans.
Des boulangers qui ont leur levain de plus de 100 ans.
Oui, qu'ils ont gardé en fait depuis plusieurs générations ou qu'ils ont récupéré à d'autres boulangers.
Le même levain qu'ils nourrissent donc.
Voilà, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Puratos qui a fait une bibliothèque de levain. Donc qui a récupéré plusieurs levains de plusieurs boulangers français, enfin d'Europe, mais aussi d'Amérique et tout ça. En fait, pour garder, puisque chaque levain a sa propre caractéristique, a ses propres bactéries, ses propres levures complètement différentes.
Et qui donne une identité au pain qu'on va retrouver chez un boulanger et pas chez un autre.
Tout à fait, oui.
C'est pour ça que même si les méthodes sont les mêmes, le goût du pain chez un boulanger et chez un autre, c'est complètement différent.
Ça sera différent puisqu'il y a aussi le laboratoire qui est différent. Donc la vie du laboratoire a des levures. Ce qu'il faut savoir, là, pour la petite histoire, mais ça date, certains boulangers gardaient leur levain dans les toilettes.
Ah, parce que c'était plus humide.
Plus humide, il y avait aussi des bactéries entre guillemets contenues dans l'air et tout ça.
Potentiellement.
Donc pour avoir plus de bactéries, pour avoir plus de facilité. Voilà. Alors maintenant, forcément, on le garde plus comme ça, mais on a des machines aussi qui permettent d'avoir un levain liquide qui a été inventé par Eric Kayser, le fermenteur levain. Hein, donc voilà, on a d'autres méthodes pour conserver aussi plus facilement.
Je reviens juste sur le vin. Le levain, est-ce à dire que tous les boulangers font du pain au levain? Parce que ça, il ne me semblait pas, puisque dans les boulangers, on trouve un pain strictement au levain.
Non, hélas, c'était une méthode très utilisée avant la découverte de la levure. Hein. En fait, c'est aussi ces anecdotes qu'on peut avoir sur qu'il ne faut pas manger le pain chaud et tout ça. Ça a été la guéguerre entre le pain fait au levain et le pain fait à la levure. En fait, on disait que le pain fait à la levure ne permettait pas la digestion, une bonne digestion et tout ça, il fallait le manger froid. Donc on a eu pendant des années des guerres entre ces deux méthodes de fabrication.
Et c'était vrai ?
Non,
pas
non,
du
non,
pas c'est du pas tout. Fondé.
Non, c'est pas fondé. Voilà, on peut manger du pain chaud, il n'y a pas de problème de digestion. Ah ouais. Mais c'était en fait, il y a eu beaucoup de guéguerres, donc il y avait des médecins qui étaient pro levain, d'autres pro levure et qui se battaient, qui disaient des choses, voilà.
Est-ce que le pain, la différence fondamentale qu'il y a entre les deux, est-ce que le pain ou le vin est plus digeste, parce que c'est ce qu'on dit généralement, parce qu'il est un peu plus acide, c'est vrai ou c'est...
Oui, parce qu'en fait, il va mettre plus de temps à fermenter. Donc, on va avoir une dégradation du gluten, par exemple, plus facilement. Mais si on mettait moins de levure, ça serait très bien. On pourrait très bien aussi avoir un très bon pain et avoir... Mais il faudrait mettre beaucoup moins de levure.
Ce serait la même chose.
Oui, tout à fait.
C'est le problème de la quantité de levure qu'on met.
Alors après, ça date aussi, ce que je disais tout à l'heure en antenne, que de l'époque des années 50, après la Seconde Guerre mondiale, que les gens ont voulu un pain avec beaucoup de volume. Et donc on a pétri plus et donc on a donné un pain avec beaucoup de volume, mais il fallait aussi mettre plus de levure et beaucoup plus de sel aussi. Hein. Moi quand j'ai commencé j'étais à peu près à 35 grammes au kilo de farine. Maintenant on est rendu à 18 grammes et on doit passer à 16 grammes au kilo de farine de sel. Donc vous voyez la différence. Mmh. Hein, donc c'est tout ça qui a fait qu'on a un pain qui est... complètement différent maintenant.
Et est-ce que la levure permettait pas aussi que le pain pousse plus vite?
Oui, tout à fait. Hein. Alors après, on avait aussi cette habitude de mettre beaucoup de levure en pensant que ça allait accélérer. Mais en fait, le début de fermentation est identique avec 5 grammes ou avec 50 grammes. Donc après, forcément, ça va être exponentiel. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Mais au départ, le temps est identique.
Mais disons que ça a été un peu dans le cadre de l'industrialisation du pain, des pains du pain qu'il fallait faire vite, les pains de supermarché, etc. Du coup, la levure était utile pour ça.
Des boulangers aussi. Hein. On est arrivé, après la mécanisation aussi est arrivée, les chambres de fermentation sont arrivées. Donc tout ça a fait que, aussi pour rendre le métier plus attractif, hein, puisque faut aussi se rappeler qu'avant, les boulangers se levaient vers 11h, commencer le pain pour avoir du pain chaud et tout ça. Il y a une histoire, enfin il n'y a pas une histoire, c'est la vérité, il y a eu une interdiction de travail de nuit en 1920 à Paris. En fait, ils voulaient interdire, un député a voulu interdire le travail de nuit pour l'hygiène, parce que l'hygiène n'était pas terrible à cette époque-là.
Mmh. Le boulanger à côté de chez moi quand j'étais enfant, il se levait à 2h du matin pour faire son pain, c'est encore vrai ça ou...
Alors, c'est, ça peut être encore vrai, parce qu'il y en a quelques-uns encore qui sont réticents à certaines utilisations de matériel, telles que les chambres de fermentation. Mais logiquement, maintenant, la plupart ont des chambres de fermentation. Et les chambres de fermentation ne sont pas non plus un gage de mauvaise qualité. Hein. Il faut savoir les utiliser, simplement.
Parce qu'un pain, ça doit fermenter combien de temps, alors, pour que la pâte hein.
Alors, il n'y a pas de temps, mais plus la fermentation est longue, plus le pain sera meilleur, plus aura de goût, et c'est ça qui est important. Tout à l'heure, on parlait de la baguette qu'on a ici, donc avec les petites, ce qu'on appelle nous les petites pustules sur le pain, et ben c'est ce qui permet de savoir qu'il y a eu une longue fermentation. Donc au contraire, c'est là qu'il faut apprécier, parce qu'il y aura certainement du goût.
Mmh. On va parler des différents modes de production du pain et des pains différents qu'il existe en France et puis pourquoi pas ailleurs puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté notre idole à tous, Claude François, qui nous chante du pain et du beurre.
Ne sait faire que ça.
Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. Du pain et du beurre, et ça s'arrête là.
Oh oh oh, au début pour lui plaire, j'en mangeais de bon cœur. En lui disant c'est délicieux, quand j'en avais horreur.
Du pain. Je n'aime que ça. A du pain et du beurre. Allez, ça s'arrête là.
Alors elle m'a tendu un piège en mettant un beau jour sur une table du pain et du beurre, de l'eau fraîche et de l'amour.
Au pain et au beurre, ah, je suis condamné. Ah, au pain et au beurre, ah, pour bien.
Le pain. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire où, durcissante, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent, elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.
La baguette est entrée le 30 novembre dernier dans le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, on peut dire cocorico. Et je vais citer la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, qui salue la décision de l'UNESCO et qui dit l'UNESCO donc qui consacre la dimension patrimoniale des savoir-faire artisanaux de la baguette et reconnaît qu'aller chercher son pain est aussi un acte culturel, un moment de partage et de lien social. La baguette est reconnue dans le monde entier comme un symbole de la gastronomie française. sous ses différentes formes, traditionnelles ou réinventées par nos artisans, la baguette rythme le quotidien des Français, matin, midi et soir, depuis plusieurs siècles, et s'est exportée dans de nombreux pays. Alors moi, j'ai vécu pendant très nombreuses années à l'étranger, et quand je reviens en France, je suis étonné que... Enfin, pas étonné. En France, les gens mangent du pain avec tout. Même avec un couscous, même avec un hamburger, avec un grand plat de pâtes, ils veulent absolument leur pain à table. Alors, c'est une sacrée manie. Non, autour de cette table, vous êtes pas, non, vous êtes tous habitués ici à ça, quoi. Mais moi, je trouve ça absolument, ma femme qui est pas française, elle trouve ça délirant de bouffer du pain avec tout, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Boulanger, vous?
Bah, c'est nos habitudes françaises. Moi aussi, pour avoir vécu à l'étranger, je me suis passé de pain pendant quelques années.
Ouais.
c'est, bah alors, aussi parce qu'il n'était pas très bon, faut l'avouer. Mais c'est voilà, c'est nos habitudes et c'est bien pour ça que c'est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO.
La baguette, ça représente beaucoup de choses quand même. Hein.
Un Français peut pas manger, comme tu dis, sans pain. C'est compliqué. Non, c'est trop. Enfin, pour moi, c'est compliqué.
C'est dur.
Ça a été très dur pendant 3 ans de me passer de pain après. Et en fait, on a aussi nos plats qui font partie. On a besoin de pain pour accompagner nos plats.
Alors c'est ça justement, parce que le pain en France, ça sert à accompagner le plat, ça sert à pousser un petit peu les restes, à saucer aussi son assiette. Hein,
ça sert à essuyer l'assiette.
Ça sert à essuyer l'assiette, absolument. Ouais. Oui, parce que si on n'a pas de pain, on est obligé de la lécher. Et ça, c'est pas super beau, surtout au restaurant. Quoi.
Qui n'a pas entendu maman dire pousse avec ton pain.
Exactement. Voilà, tout à fait.
Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen Âge, l'assiette, c'était le pain.
Oui, l'assiette, c'était le pain. Absolument. Voilà. On en a parlé dans une édition précédente, il y a quelques années, où on parlait de la cuisine du Moyen-Âge ou de la Renaissance, je ne sais plus. Et c'est vrai que, oui, on s'en servait comme assiette. Donc, la baguette, là, ça représente vraiment la France. Quand on parle de France à l'étranger, c'est le béret, la baguette sous le bras. Il n'y a pas que la baguette, c'est vraiment la tradition parisienne, on va dire. Enfin, même si les origines sont un petit peu floues, comme on disait tout à l'heure. Il existe d'autres pains. Toi, par exemple, au lycée hôtelier, qu'est-ce que tu enseignes les bases du pain, c'est à peu près toujours les mêmes.
C'est toujours les mêmes, c'est de l'eau, de la farine, du sel, de la levure. Alors, on parlait tout à l'heure de la pâte fermentée, puisque nos diplômes sont souvent sur pâte fermentée. Hein. C'est une pâte en général de la veille, mais on travaille aussi le levain, pour qu'ils découvrent le levain, puisque ça revient de plus en plus depuis les années, je dirais, depuis la baguette tradition, c'est revenu à la mode. C'était un peu disparu, il y avait un peu de boulangers qui travaillaient encore au levain. De nouveau, on travaille de nouvelles méthodes aussi, telles que la méthode Respectus Panis, qui est une très très longue fermentation de 18 heures à température ambiante. Alors, température ambiante, c'est 18 degrés à peu près. Hein, donc, qui nous permet justement d'avoir une farine de blé, mais avec un indice glycémique beaucoup plus bas, et donc qui est plus acceptable pour les personnes qui ont une intolérance au gluten. En fait, ils vont pouvoir le manger. Parce que c'est le problème un petit peu avec cette intolérance, que les fermentations ne sont pas assez longues et donc ne travaillent pas le gluten. Et donc c'est ça.
Oui, parce que alors peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Le gluten, à cause de ces intolérances, c'est haro sur le pain. Et faut pas oublier qu'en fait, trop de gluten, ça dépend des blés. C'est pas dans tous les blés.
Oui, oui. Alors en France, on a quand même beaucoup de blés qui sont cultivés pour le pain. Pour la minoterie et pour la fabrication du pain. Donc, on a un taux de gluten de 8 à 12%. Donc,
qui a été gonflé artificiellement.
Alors, pas artificiellement. Il a été, les blés ont été
sélectionnés
pour ça. Donc, oui. Après, voilà, la sélection, elle a été très rapide, puisque même moi qui ai 30 ans de métier, en fait, le blé que j'ai connu à mes débuts et le blé que je connais maintenant, on n'est plus du tout le même. On parlait tout à l'heure de la blancheur de la baguette. En pétrissant énormément, avant, on avait un pain qui était très très blanc, la blancheur d'une feuille. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour obtenir cette blancheur, puisque les blés sont sélectionnés aussi pour leur couleur et ne permettent plus de blanchir autant qu'avant.
Alors ça, c'est pour des raisons économiques aussi. On gagne du temps en pétrissant moins longtemps. Et donc,
non, ça, alors c'est pas du tout économique. Ça a été plutôt vraiment pour la qualité du produit, en fait. Hein. Alors après, la blancheur, parce que les gens voulaient plutôt des pains avec des mies un peu plus crème. Donc on a et c'était l'idée de continuer à avoir un pain avec du volume, parce que les gens pensent que un pain avec du volume c'est mieux. Mais non, en fait, beaucoup de volume va enlever beaucoup d'arômes. En fait, plus on a de volume, moins on a d'arômes.
C'est moins concentré.
Ouais. On oxyde la pâte, donc en fait, on détruit tous les arômes. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut pétrir beaucoup moins et avoir quelque chose avec moins de volume.
Le gluten, c'est pas forcément mauvais pour la santé. Il n'y a que 1 ou 2% de la population qui est intolérante au gluten. La maladie ciliaque, c'est quand même une maladie assez grave, très très grave même. Ça touche à peine 1% de la population mondiale.
Oui, c'est
très très grave, mais c'est vraiment un minimum de personnes. Le problème, c'est qu'on a des produits industriels où le gluten n'est pas assez travaillé, voilà, et donc le corps a du mal à l'assimiler. Et quand on arrête de manger ces produits-là, forcément, on se sent plus en forme. Ça ne veut pas dire qu'on est intolérant au gluten.
Non, tout à fait.
C'est ça le problème, en fait. C'est devenu une mode. Mais il suffirait d'arrêter de manger de la merde, hein, tout simplement.
Jean-Pierre Coff,
oui.
Te vois.
Oui, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire manger des pains. Alors beaucoup mangent des pains sans blé, mais en fait ce serait de manger des pains avec des longues fermentations, donc type Respectus Panis, mais ou alors manger des pains à base d'épeautre ou ce genre de choses.
De blé ancien.
Oui, les blés anciens. Oui. Mmh. C'est en fait pourquoi les blés anciens, c'est parce qu'on est obligé de les travailler différemment et souvent de mettre des longues fermentations. Donc souvent ils sont travaillés aussi avec des levains, parce qu'on a quand même des blés qui sont d'une autre qualité, qui vont apporter d'autres arômes et au pain. Et donc, c'est sûr qu'on ne va pas le matraquer. De toute façon, on ne peut pas le matraquer avec beaucoup de pétrissage. Mmh. Ce n'est pas des blés qui vont avoir un volume. Enfin, ce n'est pas un pain qui va avoir du volume.
Alors, pour revenir sur la baguette, on parlait tout à l'heure de la baguette tradition hors antenne. Tu peux nous dire un petit peu plus? Parce que là, j'ai apporté deux baguettes ici sur le plateau. Alors, il y a une baguette blanche moulée dont la croûte est très, très fine. Alors, je vais mettre une photo sur Instagram pour nos amis auditeurs.
Qui sera sèche. Dans moins de 8 heures.
En fait, là, elle est un petit peu caoutchouteuse et c'est effectivement, dans 8 heures, elle va être ultra sèche. Et puis à côté, une baguette tradition bio. Les alvéoles sont un petit peu. Tu peux nous les décrire d'ailleurs, Denis, ce que tu as devant toi? Parce que là, la croûte, elle est un peu plus épaisse, ça craque un petit peu plus.
Alors, oui, c'est.
On a plus de pain, quoi.
Voilà, c'est simplement donc une longue fermentation, puisqu'on voit alors, ce que nous, on appelle les petites pustules, des bulles, en fait, des petites bulles d'air qui sont à la surface du pain. Hein, donc, c'est ce qui nous indique que ça a subi une longue fermentation. La mie est plutôt crème. Là aussi, ça permet de penser qu'il n'y a pas eu beaucoup de pétrissage. Donc, on sait qu'on va déjà avoir plus d'arômes. On a des alvéoles qui sont un petit peu plus ouvertes. Alors après, sur la baguette de tradition, c'est le problème qu'on a. On a une loi sur la farine, en fait, de tradition, qui ne doit pas contenir d'additifs. On a une loi sur comment elle doit être fabriquée, mais en fait, on n'a pas une loi sur le produit fini. Et c'est un peu le problème, puisqu'on peut faire une tradition, mais avec beaucoup de volume. D'ailleurs, on en voit dans certaines boulangeries, qui ont subi, qui a beaucoup de volume, qui est une mie régulière, c'est-à-dire que comme si c'était du pain de mie, hein, et qui est pas bonne, faut l'avouer.
Donc c'est uniquement la qualité de la farine? C'est pas le temps de fermentation?
La baguette de tradition, oui. Il n'y a pas de temps de fermentation, il n'y a aucune loi sur.
Aucune réglementation là-dessus.
Aucune réglementation sur la fabrication.
Alors qu'est-ce qui fait que c'est la tradition?
C'est simplement que, en fait, la farine, qui est obligatoirement une farine de tradition, donc sans additifs, mais avec des adjuvants, tels que du gluten. On peut rajouter du gluten,
Dans la tradition, on peut ajouter du gluten.
Alors, ce n'est pas nous qui le rajoutons, ce n'est pas le boulanger, c'est le meunier qui rajoute. Après, il y a l'obligation, c'est qu'elle ne doit pas être congelée. Mais par contte, la pâte.
Oui,
la pâte,
oui,
ne doit
pas
être congelée. Oui, parce que c'était aussi, ça a été fait en fait pour que les grandes surfaces ne puissent pas prétendre à cette baguette de tradition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut la précuire. Si elle a été précuite et pas congelée, donc c'est une baguette de tradition. Donc voilà. Après, Moi, ce que je regrette, c'est surtout qu'il n'y a pas un résultat.
Ah oui, un résultat.
Voilà, qu'il n'y a pas eu un résultat défini. C'est ça qui est dommage. Après, on aurait pu avoir un résultat un petit peu plus large pour que tout le monde puisse l'obtenir. Hein, mais là, personne ne nous a dit c'est ça.
Mais alors, le blé de tradition, c'est quoi, concrètement ?
Alors, c'est des blés... classique, simplement, c'est simplement durant la mouture qu'ils n'ont pas, on n'a pas ajouté d'additif.
D'accord, voilà. C'est juste des adjuvants, mais pas d'additif par rapport à une autre farine.
Voilà, oui, parce que par exemple le E300, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Pas du tout.
L'acide ascorbique, qui est en fait une vitamine C plus ou moins, synthétique, hein, et donc qui permet d'obtenir beaucoup de volume et avoir plus de corps.
Bon, c'est un peu fumeux quand même.
Isabelle, je vais tourner vers toi. Tu vas nous parler un petit peu du vocabulaire du pain.
Ouais, avant de parler du vocabulaire, j'ai tellement entendu de choses qu'il y a d'autres choses qui me sont revenues. Et donc, je vais faire une parenthèse. On disait manger son pain blanc avant justement que notre ami Louis XVI se retrouve avec un peu moins de tête et suite au bon conseil de Marie-Antoinette qui disait s'ils n'ont pas de pain, qu'ils aillent manger de la brioche.
C'est pas prouvé.
Ouais, bon.
Qu'elle l'ait dit.
Ouais. Allez, on garde l'histoire et à savoir que à l'époque manger du pain blanc c'était être riche, c'était faire voir en société qu'on était capable de payer la farine du meunier la plus blanche possible. Et si on regarde bien nos sociétés au jour d'aujourd'hui, on en sera bien à l'inverse, hein. Vous parliez tout à l'heure des pains complétés avec des tas de raisins, graines de courge et autres.
Mais il suffit de regarder la génération des gens nés après-guerre. Eux sont encore sur le pain blanc. Voilà,
ouais, c'est ça.
Je sais que dans mon village, quelqu'un fait du dépôt de pain. En fait, les gens, on est en zone rurale, hein, veulent la baguette comme celle qui sera sèche dans moins de 8 heures.
Ça paraît étonnant. Hein.
Et c'est la génération après-guerre, et c'est notre génération à nous, mais qui se remet à manger les courges qu'ils ont mangées pendant la guerre. Je sais que mon père, qui est né en 46, mangeait du pain blanc et refusait de manger des courges. Parce qu'il y avait cette histoire-là
Alors, si vous avez traîné à Paris récemment, les étals de pain sont plus tournés vers les pains, entre guillemets, dits noirs ou rajoutés ou à autre chose. Et les étals de baguettes maigrissent. Alors, est-ce que la conjoncture économique va faire changer la donne ? Est-ce qu'on retournera à notre pain blanc ? J'en sais rien.
C'est souvent des pains plus chers quand même, tous ces pains-là, des pains complets, des pains au mie plus brunes.
C'est la mode. Comme dit Isabelle, avant c'était l'inverse. Hein, c'était les pains blancs qui étaient très très chers et les pains complets qui étaient pas chers.
Est-ce qu'on reviendra ? On ne sait pas.
À voir.
Bon, donc ça c'était le petit morceau inspiration moment. Et pour les choses que j'ai un petit peu plus envie, alors je ferai pas un one woman show tout de suite, mais je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je fasse un préambule. Quand on fabrique du pain, il faut choisir la farine. Tout à l'heure, Denis a commencé à dire les T80, les T65, on a eu un jeune qui s'est un peu fourvoyé dans les T, pas en imaginant du tout ce que ça pouvait représenter. À titre informatif, le T55 ou le T45, c'est la blancheur, enfin c'est le reste de cendre une fois qu'on a brûlé 100 grammes de farine à très haute température. Il reste les particules de son, des impuretés, des minéraux, les choses comme ça, et c'est ce qui va définir le T de la farine.
C'est-à-dire concrètement, une farine T55, il reste, le 55 c'est la quantité de cendre.
Il restera un petit peu
sur
plus.
100 grammes.
Voilà, c'est ça. Et donc le jeune homme s'en va lire en lisant la recette, et la recette dit qu'il faut une farine T45. Malheureusement, sur les étages, seulement de la T55, et il vient voir un de nos collègues en disant en fait chef, il n'y a plus de farine comme vous aviez dit, et donc comment je fais ? Voyant que le jeune n'avait absolument rien compris et pensait plutôt à une taille T45, donc plus petite, il l'a carrément envoyé avec un bac à farine et le plus grand de nos couteaux, patauger dans la farine, jusqu'à ce qu'il y en ait absolument partout.
C'est un peu salaud. C'est un bizutage.
Alors, il y en a plein des bizutages. Moi, j'ai commencé aussi dans la boulangerie et le bizutage le plus courant, c'est celui de dire bah, « Petit, va chercher le moule à croissant, je l'ai prêté au boucher hier, il ne me l'a pas rendu. » Et puis, le boucher de connivence de dire qu'en fin de compte, il l'avait prêté au bar du coin et de courir à la campagne après le fameux moule à croissant qui, à titre informatif, n'existe pas. Absolument pas du tout. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé de faire du pain à la maison et c'est pas toujours évident. On nous laisse croire qu'on peut en faire du bon. Si vous essayez de lire certaines phrases, j'ai retenu 5 mots pour le pain. Le fameux gluten qui va vous permettre de vous aider à façonner le pain et à donner ce corps qu'on attend pour avoir une mie qui va retenir du gaz, qui va faire des alvéoles, en tout cas pour lequel on va se faire plaisir. Le fameux corps, c'est quand on arrive à tirer sur cette pâte, quand elle est passée dans le batteur au crochet et qu'on arrive encore à faire un peu comme un tapis de trampoline, c'est quelque chose d'assez résistant. Le rabat, c'est quasi obligatoire quand on fait une première fermentation parce que bah, si on n'écrase pas une première fois cette pâte avant de la faire repousser, on se retrouve avec un goût qui est assez désagréable en bouche. En tout cas, personnellement, j'apprécie pas. Je trouve que ça a un goût de gaz.
C'est pour dégazer, en fait, qu'on rabat.
C'est ça.
Comme la brioche, c'est
exactement.
Pareil, après la
comme
première
la pâte
levée.
À pizza.
Toutes les pâtes qui méritent...
On la casse.
En fait, c'est pour qu'elle continue à avoir un peu plus de fermentation, puisque la levure a mangé toute l'oxygène qui était dans la pâte, et donc on lui donne de nouveau de l'oxygène en le rabattant. Ouais. Et c'est aussi pour lui donner du corps. Donc de la force, en fait, ce qu'on appelle de la force.
Et après, elle repart sur une fermentation.
De nouveau,
c'est ça. Et qui laissera un bon goût cette fois-ci. Enfin, en tout cas, que je préfère. Ouais. Deux rigolos derniers, la clé. C'est pas celle qu'on mettra dans la porte, c'est la façon de mettre la forme briochée, pain en forme, et donc de laisser l'attache du pain par le en dessous. Voilà, la clé, c'est ce qui va tenir. Et la grigne, ben, en fonction du boulanger que vous avez, et tout à l'heure j'ai entendu parler d'industriels, il y en a qui aiment se faire reconnaître en mettant 3, 4, 5, me direz-vous de quoi ? Ce sont les petits coups de lame qui vont venir faire éclater le pain à la cuisson. Et si vous voulez faire plaisir, enfin, moi je prends plaisir à regarder sur YouTube des images en accéléré de pouces, de grossissement et de cuisson du pain, c'est juste génial. Régalez-vous.
Tu parlais justement de faire son pain à la maison. Je vais me tourner encore une fois vers toi, Denis. Tu faisais la grimace tout à l'heure, Isabelle, sur le fait que les gens puissent faire du pain à la maison. Et moi, c'est vrai, moi, j'ai essayé de faire du pain à la maison. Les enfants trouvaient ça génial. Je trouvais ça affreux parce que c'était vraiment pas bon du tout. Et puis, j'ai toujours des mauvaises expériences. On m'a même prêté une machine à pain un jour. Alors, il fallait tout mettre dedans la veille, appuyer sur un bouton et on m'a dit, demain, t'auras un pain. C'était génial. Le lendemain, je me suis retrouvé avec un semblant de, je sais pas quoi au-dessus et puis une brique. Au fond de la machine, enfin bon, ça marchait pas du tout, c'était vraiment du grand n'importe quoi. On peut réussir à faire du pain à la maison finalement ? Parce que pendant le confinement, tout le monde a fait du pain à la maison, hein. Tout le monde avait ça à faire finalement.
Il fallait bien s'occuper.
Voilà, c'est ça.
Mais oui, c'est possible, mais c'est très compliqué, même si souvent je suis étonné de nos élèves qui en font et qui réussissent vraiment des choses magnifiques.
On voit des belles choses quand même.
Tout à fait. Après, il faut penser qu'un pain a besoin de levure, de vapeur. Et c'est ça le plus compliqué à créer à la maison, la vapeur dans son four.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit récipient en fer, on met de la flotte dedans.
Voilà,
et puis,
tout à fait.
Allez, je prends le risque, Denis me tuera plus tard, mais on est en vacances, donc ou une poêle anti-adhésive, ou en tout cas quelque chose qui vous permette de mettre de l'eau au fond du four et d'avoir, de faire déjà chauffer votre four et de façon à ce que ça génère déjà de la buée
avant
même d'en fourner.
Tout à fait,
Et si toutefois, aïe, il ne me tape pas, faire cuire le pain dans une cocotte en fond de grand-mère. Donc ça fait de l'auto-buée et ça permet d'avoir ce côté un peu croûté, un peu bien moins pire que dans la super machine.
De toute façon, il faut absolument de la vapeur pour que le pain se développe, pour qu'il ait une croûte brillante. Autrement, il aura quelque chose de terme.
La cuisson,
tout à fait.
Mais
il va rester blanc, sinon, en fait, non ?
Non, il va être
La croûte, tu parles ?
Ouais, mais non, ça va pas être blanc, mais ça va avoir un aspect terne, très terne, et donc il va pas se développer non plus.
D'accord.
Donc c'est pas déjà c'est pas appétissant. C'est vraiment pas appétissant un pain comme ça.
Alors quelle température pour le four aussi ?
Alors, pour les fours à la maison, c'est 180 à peu près.
D'accord.
Ouais, c'est facile. Enfin, normalement, je dirais ouais. un peu plus.
Moi, je démarre un peu chaud. Moi.
Ouais, mais.
Moi, je démarre à 230, une petite vingtaine de minutes. Et puis
après, tu baisses.
Je baisse, par contre, drastiquement. Et puis.
Parce que c'est, ça dépend des fours. Hein, après, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir une pierre et le mettre à cuire sur une pierre, en fait. La faire chauffer et la mettre sur une pierre.
D'accord.
Mais autrement, sur la tôle, mais bien chaude aussi.
Si on veut faire une baguette à la maison, ça prend combien de temps à cuire, la baguette?
Alors, une baguette d'un poids de 350 grammes cru.
C'est beaucoup 350 grammes, non? Parce que faut.
Cru.
Donc, elle arrive à 250.
La baguette, c'est un poids, en principe.
D'accord.
Et donc, c'est 350 grammes cru, 250 cuits. En principe, une bonne baguette bien cuite, c'est 25 minutes à peu près.
Alors, la baguette à côté, la boulangerie conventionnelle à côté de chez moi, je ne vais pas dire conventionnelle. Elle fait 190 grammes, je me fais arnaquer, elle fraude, c'est qui?
Logiquement, il y a des poids, après, ça fait. C'est un référentiel, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, là j'ai oublié le nom, mais en fait, des habitudes professionnelles qui fait référence. Et donc, normalement, une baguette, c'est 350 crues, 250 cuites. Et logiquement, ils ne devraient pas vendre en tant que baguette. Ça devrait avoir une autre appellation.
Alors moi, je voulais revenir. Donc là, on a beaucoup parlé de la baguette, mais sur les autres variétés de pain, on a parlé des pains avec la mie plus foncée. Il y a une façon de faire du pain. Qu'est-ce qui fait que, du coup, je vais avoir un pain, je dis n'importe quoi, un pain basque, un pain corse, un pain à la boulangerie voilà.
Alors non, il n'y a pas une façon. En fait, il y a plusieurs méthodes de travail complètement différentes. Nous on le voit avec nos élèves, on fait tous la même méthode, on a tous la même recette et on a des pains complètement différents à la sortie. En fait, il y a déjà les mains aussi qui jouent énormément, mais après il y a surtout les méthodes de travail qui sont complètement différentes et donc c'est ça qui va faire qu'on a des pains différents. Après, les formes aussi sont différentes puisque chaque région avait à une époque, enfin même si maintenant il y a encore quelques régions qui ont des pains, le pain tordu, le pain
pain brillé
ouais, qui est de Normandie. On avait le pistolet qui est du nord, on avait la foisse qui est plutôt angevin.
Alors, oui, angevin, oui, c'est vrai.
En fait, mais voilà, mais il y a plein de pains. Enfin, la France était à des formes et des pains complètement différentes, sur une même base, mais au final qui donnent pas du tout le même produit.
Et alors justement, après, quand on parle, donc il y a des pains différents mais avec une mie un peu identique, tout ce qui est pain complet, pain de semi-complet, pain épeautre, pain c'est quoi? C'est le thé qui change?
Oui, puisque le pain complet, là aussi, il y a normalement une règle, c'est qu'il doit être composé normalement intégralement du grain de blé issu de la mouture. Donc, maintenant, on utilise une farine, ce qu'on appelle T150, qui est la plus forte qu'on a, nous, ici, en France. Donc, qui est, en principe, qui est le grain de blé entier. En fait, le grain de blé a été séparé pendant la mouture et on recompose cette farine. C'est pour ça qu'elle est un peu plus chère. Mais normalement, on a vraiment, en France, on a beaucoup, beaucoup de. Alors, on est un des rares pays à avoir tous ces six types, puisque les autres pays sont plutôt définis par des 001 ou 000. Donc, voilà. Après, nous, on a aussi beaucoup de lois sur les types de pain. Par exemple, le pain de seigle, pain au seigle, ça dépend du pourcentage de seigle dedans. C'est vraiment. Mais ça, c'est. C'est en fait les habitudes qui ont été réglementées. On a appris, il y a eu, en 79, il y a eu une référence qui a été prise et qui, normalement, impose des lois. Mmh. Et on doit respecter cette référence-là. Maintenant, on le voit tous, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas respectés.
Et alors justement, est-ce que c'est une bêtise ou il me semble avoir entendu qu'on n'avait pas le droit d'apposer le nom de boulanger ou boulangerie en devanture d'un magasin si on ne fait pas du pain
sur place.
Sur place, oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est pour ça que Micaline et compagnie ne s'appellent pas boulangerie. Est-ce le cas pour...
Oui, c'est toujours le cas. Hein. Enfin, c'est le cas depuis, c'est pas si vieux que ça, ça a une quinzaine ou vingtaine d'années à peu près. Ça doit avoir une vingtaine d'années. En fait, la Confédération, donc, qui est le syndicat des patrons boulangers, a demandé à l'État pour que les grandes surfaces ne s'appellent plus boulangerie, puisqu'ils avaient au-dessus souvent boulangerie marquée, et ils ont demandé que ça soit une obligation de fabriquer tout sur place et aucune congélation.
1998.
Ouais, ouais. En effet.
Ouais, 30 ans. Petite, ouais. 24 ans, c'est ça.
24.
Ouais, c'est ça.
24.
Ouais.
Et alors, on parllait aussi de toutes ces chaînes, Banette, Pétrisane et compagnie.
Alors, Banette n'est pas une chaîne, en fait, c'est un moulin.
C'est un moulin, ouais.
Ouais, alors après, en fait, ils achètent la farine, ils achètent l'enseigne et tout ça, mais en fait, c'est des boulangers indépendants qui ont l'obligation, enfin, qui suivent les recommandations du moulin.
C'est ça. Et oui, Pétrisane, je crois que c'est pareil.
Pareil, tout
et
à
alors,
fait.
C'est quoi le... Ils achètent juste la farine, mais après, ils font quand même le pain sur place?
Ah oui, ils font le pain sur place, en principe. Ils réalisent tout sur place. J'ai bien en principe.
D'accord.
D'accord. Les différents pains, pour revenir dessus, la baguette tradition, on vient d'en parler. Le pain, on sait à peu près tous à quoi ça ressemble. La différence, un pain de campagne et un pain traditionnel, en fait, c'est quoi?
Alors le pain de campagne, en fait, là aussi, il est défini par une loi, enfin par une référence qui normalement nous dit que on doit ralentir le rassissement du pain. C'est-à-dire que si on faisait par exemple une baguette et on mettait de la farine dessus simplement avant l'enfourner, oui, et on pourrait l'appeler pain de campagne. Et en principe, il est plutôt fait.
Une baguette de campagne.
Ouais, baguette de campagne.
C'est fait d'avoir de la farine dessus, en fait.
Non, de ralentir le rassissement.
Ah, pardon, ouais.
Voilà, c'est ce qui est dit dans la référence. Et en principe, il est plutôt fait avec une petite partie de seigle. Hein, c'est environ 10 à 15% de seigle, le campagne. Après, ça dépend de chaque boulanger, mais.
Là, la cuisson est forcément plus longue parce qu'on parle d'un poulet beaucoup plus gros. C'est une boule de campagne, quoi.
Oui, alors elle est un peu plus longue. C'est aussi, si on cuit un peu plus, s'il y a plus de croûte, forcément,
on
va ralentir le rassissement du pain.
Un peu plus noir, enfin plus foncé.
C'est, tout à fait. Ouais. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important. La cuisson, hein, c'est ce qui nous apporte les arômes. Le pain blanc, il est sorti d'une boulangerie, d'une minoterie qui a dit au boulanger, cuisez moins. Comme ça, vous pesez un petit peu moins votre pain. Et au final, il fait le poids, puisqu'on le cuit moins, donc moins d'évaporation. Et donc, cette minoterie a lancé cette mode-là il y a quelques années. Maintenant, ils sont plutôt à l'inverse. Hein, ils sont revenus sur la cuisson, une bonne cuisson et tout ça. Mais c'est, Alors après, c'est aussi nos jeunes qui ont l'habitude de manger des pains hamburgers et tout ça.
Ouais. J'ai vu des affreuses choses quand même, où quand on se permet de servir la fournée ou blanche ou dorée, cuite, la blanche, moi, elle me reste en travers. Hein.
Et oui, mais ça, c'est aussi les habitudes alimentaires. On parlait de l'étranger ou n'importe. Mon épouse qui arrive, qui est péruvienne, au Pérou, ils ont du mal à manger des pains avec une croûte assez ferme. Parce que ce n'est pas leurs habitudes alimentaires, ça leur fait mal au palais.
Comme tous les pains méditerranéens aussi, ce sont des pains mous.
Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps à la fin de l'émission, un bâtard, on fait toujours des bâtards dans les boulangeries? Moi, j'ai trouvé que c'était un mix entre la baguette et le pain.
Oui, c'est ça. C'est l'appellation.
Taille, en fait.
Alors, c'est la taille, oui. Parce que c'était en général, c'est le poids d'une baguette, mais qui est beaucoup plus court, tout simplement. Mais on en fait toujours, puisque, par exemple, les pains de campagne, c'est des bâtards. Souvent, c'est des petites formes, un petit peu arrondies, pointues sur les bouts, quoi.
À Paris, on voit des ficelles. C'est très dur de faire un jambon beurre avec une ficelle.
On met le jambon autour du
pain.
Non,
c'est la ficelle, c'est pour le matin, pour le petit déjeuner.
Ah, c'est ça.
Ouais, c'est vraiment que pour le petit déjeuner le matin, en fait, pour manger rapidement.
Et coupe en deux, on met de la confiture.
Voilà, c'est ça.
Et l'affreux pain de deux des cantines. Est-ce qu'il est toujours fait, celui-ci, qui était tout sec quand on
était assis? Le pain de deux, c'est toujours le pain, en fait. Enfin, c'est plus du pain de deux parce qu'il fait plus le poids, mais
pain de deux pour les plus jeunes, pain de deux livres.
C'est les gros pains, les pains. un chien, on appelle
un kilo,
ça.
Là.
Ouais, mais en fait, on appelle toujours le pain de deux qui le pain. Souvent, ça s'appelle. Enfin, moi, mes parents m'appellent toujours ça le pain de deux. Voilà, c'est. Oui, il est toujours fait. Après, c'est du pain souvent blanc. Voilà.
Chacun ses goûts.
Moi, je m'autorise une seconde de conclusion. Choisissez votre pain. On arrive aux fêtes. On en mange tout le temps avec tout. Et c'était le début de l'émission. Il y a certains qui vont avec et d'autres qui ne vont pas avec. Prenez le temps de choisir une tranche.
Ça on y reviendra. Quel pain avec quel plat?
On arrive à la fin de l'émission, malheureusement.
Exactement.
C'était très instructif. Merci,
merci
Denis.
Merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Et puis, si on fêtait de joyeuses fêtes, par exemple?
Eh ben, joyeuses fêtes à tous.
Voilà. Et puis, on se
bonne
retrouve.
Bonne fin d'année.
Et on se retrouve le 16 janvier en direct, ici même.
Au revoir à tous.
Ciao, bye.
Au revoir.
Au revoir.
Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop!